On prend le 7e chapitre de Maseret Brachot, on est à la page 28. Page 28. Et on va parler de loi du Zimoun aujourd'hui, d'accord? Donc on va expliquer qui a l'obligation de faire le Zimoun, et comment on peut s'associer, dans quel cas on peut s'associer à un Zimoun, dans quel cas on ne peut pas s'associer à un Zimoun. C'est ce qu'on va essayer d'étudier au début de ce chapitre. Donc on le dit la chose suivante, si vous pouvez suivre ensemble. Alors, Shlosha, Shachlouk et Echad, trois personnes qui ont mangé ensemble. Ça, c'est le principe numéro 1. Trois personnes qui ont mangé ensemble. Chayavim les amène. Ils ont l'obligation de faire le zimoun. C'est quoi le zimoun? Le zimoun, en hébreu, traduction de zimoun en hébreu, ça veut dire invitation. En hébreu, pour dire invitation, on dit aussi azmana. C'est quand même aujourd'hui en hébreu moderne. Donc, c'est quoi le zimoun? Le zimoun, ça veut dire qu'avant de commencer à faire le Birkat Hamazon, on va s'inviter. Il y a un qui va inviter les autres à bénir Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est... Bon, je veux dire, c'est assez spécial, puisqu'on ne retrouve pas ça dans d'autres mitzvot, qu'avant de faire une mitzvah, on doit s'inviter à la faire. C'est écrit dans la Gemara que d'où on tire ça? On tire ça du verset qu'on dit d'ailleurs, quand on ouvre le Sefer Torah, on dit « Gadlou l'Hashem iti unromema shemo yardav ». Que là-bas on dit, on va faire grandir le nom, entre guillemets, si on peut dire, de Dieu ensemble, « unromema shemo » et on va élever son nom yardav ensemble. Donc on voit qu'il y a une importance de le faire ensemble, et c'est de là que les Rachamim m'ont appris qu'au moins une fois dans la journée, d'accord, au moins dans le Birkat Hamazon, il est bon de s'inviter, donc c'est pour ça qu'un va inviter les autres à bénir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, pourquoi il nous faut un minimum de trois. Très bien. Achal Demaï. Si maintenant, on a mangé du Demaï. Alors qu'est-ce que c'est le Demaï? Comment il traduit Demaï ici? D'accord. Alors justement, Demaï, je vais vous expliquer ce que c'est. Le Demaï, c'était, à l'époque, on avait un problème. Donc, aujourd'hui aussi, on a ce problème. C'est qu'on était obligé donc de prélever le maaser. Et quand on achetait au marché, chez des commerçants qui nous disaient qu'ils avaient a priori prélevé le maaser, comme c'était des gens qui n'étaient pas forcément pratiquants, donc on se doutait qu'ils ne l'avaient pas fait. Il n'y a aucune preuve. Je veux dire, le maaser, c'est prélevé 10%, personne ne pourra te dire si ça a été effectivement fait ou pas. Donc, comme la Gemara explique, les Améaharet, ça veut dire les gens du peuple, à cette époque-là, en tout cas, ils n'étaient pas particulièrement scrupuleux autour de la cacheroute. Donc, ils étaient rachoudim à la maasrot, ça veut dire qu'on les soupçonnait que même s'ils disaient qu'il avait fait, en vérité, il n'avait pas fait. Donc, du coup, on ne leur demandait même pas. Parce qu'on se dit, bon, à quoi ça sert de le faire mentir? D'accord? Donc, tu ne poses pas la question. Et, comme on se disait peut-être qu'ils ne l'ont pas fait, donc quand on rentrait chez soi à la maison, on refaisait le maaser. D'accord? On faisait le maaser, mais c'est un maaser qui était mis des rabanan. Parce qu'on se dit, s'ils ne l'ont pas fait, au moins nous, on l'aura fait. Non, c'est pas de bracha. C'est rabanan. Non, le rabanan. Pas de bracha, parce que bon, c'est le rachamim, on dit, on ne sait jamais ce qui a pu se passer. Donc on fait, on sait jamais ce qui a pu se passer. Alors, dans ce cas-là maintenant, d'accord, ce qu'on parle ici, c'est que si une personne a mangé ce dmaï, c'est-à-dire il a acheté des fruits au marché, maintenant, il n'a pas demandé à ce qu'on a prélevé le maaser ou pas. Mais on pense que ça n'a pas été prélevé. Normalement, il aurait dû reprélever une seconde fois, midi rabanan. Mais il ne l'a pas fait. D'accord. Donc, achal demaï, ainsi que umaaser rishon, shenitla trumato. Deuxième cas, s'il a mangé, maaser rishon, shenitla trumato. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez que, aujourd'hui, on ne connaît plus ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus le batamikdash. Mais à l'époque du batamikdash, il n'y avait pas un seul prélèvement sur la récolte. Il y avait plusieurs prélèvements sur la récolte. Ça dépendait des années. Vous savez que c'était des cycles de 7 ans. C'était des cycles de 7 ans, la 7e année, c'était la Shemitah. Et ça dépendait du cycle dans lequel on se trouvait. Il y avait différents prélèvements qu'on devait faire. Le premier prélèvement, c'était ce qu'on appelle la Trouma Gdola. Trouma Gdola, c'était un cinquantième. D'accord? Un cinquantième qu'on devait prélever, en pourcentage, ça fait 2%. 2% qu'on devait prélever et qu'on donnait au Kohen. D'accord? Ce qu'on appelle donc là, la Terouma Gdola. Cette obligation, on avait l'obligation de la faire, cette obligation arrivait seulement une fois que le blé, enfin la récolte, avait déjà été ramenée dans la grange, et qu'elle avait déjà été bien étalée dans la grange. Ça veut dire que la récolte qui restait en vrac, on n'avait pas l'obligation de prélever le maaser. Ou bien, une autre possibilité aussi, il fallait que la récolte rentre par la grange. Mais si, à l'époque, il y avait une technique, il y avait des fois des gens qui faisaient rentrer la récolte par le toit. Et ça, il y a un pasouk de la Torah, duquel on apprend que, selon la Torah, l'obligation est qu'une fois que la récolte est bien rangée, et qu'elle est rentrée par la grande porte. Donc on avait, hein, on a toujours été juifs.
Moyen d'éviter la taxation.
Donc il y avait des gens qui évitaient comme ça. Bon, mais on nous raconte quand même que bon, la majorité des gens faisaient quand même le maaser, parce que les Chachamim n'étaient pas contents de cette pratique-là. Donc ils ont interdit de le faire, mais bon, il y a des gens qui le faisaient quand même. Hein. C'était bon, c'est pas parce qu'on interdit qu'on le faisait. Il y a des gens qui le faisaient quand même. Alors, donc on faisait la Trouma Gdola, je vous ai dit. Première chose qu'on faisait, c'est la Trouma Gdola, c'est-à-dire 1/50, donc 2%. Une fois qu'on avait fait cette Trouma Gdola, on prélevait un second prélèvement qui s'appelait le Maaser Rishon. Maaser Rishon, ça c'est le mot Maaser, on le connaît aujourd'hui. Le premier Maaser qui était 1 de 10, donc 10%, et celui-là on le donnait au Lévi. Donc il me restait 98%. Pour ces 98%, je prélève 10%, et ces 10%, je les donne au Lévi. Ça c'est le Maaser Rishon. D'accord ? Après ce Maaser Rishon, ça dépendait des années, mais la majorité des années, il y avait ce qu'on appelait un Maaser Sheni. C'est quoi un Maaser Sheni ? Donc dans Maaser, on a le mot Esser. Esser en hébreu qui veut dire aussi 10. Donc on prenait encore une fois 10%. Mais ce Maaser Sheni était particulier. Parce que ce Maaser Sheni, le propriétaire avait le droit de le consommer. Mais la seule restriction, c'est qu'il devait le consommer à Jérusalem en état de pureté. Donc pour l'instant, on a parlé de trois prélèvements principaux. La grande Terouma, 2%. Le Maaser Rishon pour le Lévi. Donc les Kohanim sont aussi des Lévim. Hein. Le Maaser Rishon pour le Lévi, donc 10%. Et après, encore une fois 10%, le Maaser Sheni, ça c'était pour le propriétaire, ou pour qui il veut. La seule restriction, c'est qu'il fallait que ce soit consommé à Jérusalem, d'accord, en nature ou en valeur, hein, consommé en nature ou en valeur, à Jérusalem, en état de pureté. Très bien. Alors maintenant, notre Mishnah, de quoi elle parle ? Notre Mishnah parle d'un cas, où on a prélevé le Maaser, d'accord ? Donc on a prélevé le premier 10%, le deuxième 10%, mais on a oublié de prélever la première terouma, les deux premiers pourcents. On a oublié, il ne savait pas. Il a prélevé 10%, 20%, donc il a prélevé 20%, d'accord ? Enfin, 10% et après encore une fois 10%. Mais il a oublié de prélever la première terouma. Donc normalement, on n'a pas le droit de le manger. Maintenant, ils l'ont mangé. Ils ne savaient pas. Et après qu'ils ont mangé, ils se disent, mais attends, finalement, on ne savait pas si on avait le droit de manger. Alors, est-ce qu'on fait le zimoun sur cette nourriture-là ? Ça veut dire, c'est la nourriture qui est cachère, mais elle n'était pas prête à 100%. Pas qu'ils ont mangé. Si la nourriture n'était pas cachère, on n'a pas le droit de faire le zimoun. Ah oui. Déjà, on n'a pas le droit de la manger, c'est sûr. Et si on l'a mangée par inadvertance, on ne peut pas faire le zimoun. Parce que c'est quoi le zimoun ? On va remercier à Kadosh Baruch Hu, mais tu ne peux pas remercier à Kadosh Baruch Hu. Il ne fallait pas manger ça. D'accord ? Voilà. On ne fait pas. Mais là, le problème est que la nourriture en soi est cachère. Sauf que, on n'a pas fait toutes les préparations qu'il fallait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, VH ainsi que... Donc, ça, c'est deux exemples qu'on a donnés. Premier exemple, c'est du dmaï. Ça veut dire qu'on n'est pas sûr que ça a été prélevé. Deuxième exemple, c'est le Maaser Rishon. Ça veut dire qu'on a fait le deuxième et troisième prélèvement, mais on a oublié le premier. D'accord ? Et troisième exemple, c'est quoi ? Ou Maaser Sheni Vehekdesh Shenivdu. Alors, c'est quoi le Maaser Sheni Vehekdesh ? Donc, le Maaser Sheni, c'est les deuxièmes 10%. Rappelez-vous, je vous ai dit, on pouvait les manger, on pouvait les consommer soit en nature, soit en valeur à Jérusalem. Ça veut dire quoi, soit en nature, soit en valeur ? Ça veut dire qu'il y avait des gros industriels qui n'avaient pas la possibilité de déplacer des tonnes de récoltes à Jérusalem. Donc, la permission qu'on leur a donnée, c'est de racheter cette récolte-là, avec de l'argent. Et cet argent-là, on l'amène à Jérusalem, et à Jérusalem, on achète ce qu'on veut. On peut acheter de la viande, on peut acheter tout ce qu'on veut. Ce qui compte, c'est qu'il fallait le manger à Jérusalem, en état de pureté. D'ailleurs, on a fait il y a quelques mois dans la Gemara Psachim, on a raconté que la Gemara a dit là-bas que Baruch Hashem, quand les affaires marchaient bien chez les Juifs, il y avait tellement d'argent qui arrivait à Jérusalem que les gens n'avaient pas la possibilité techniquement de tout manger. Ils venaient deux fois par an pour les fêtes, ils n'avaient pas la possibilité de tout manger. Et la Gemara raconte là-bas que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient l'argent qui restait, ils donnaient aux habitants de Jérusalem. Et la Gemara a dit là-bas que les habitants de Jérusalem avaient de quoi manger la viande toute l'année grâce à ça. Vous avez de l'argent parce qu'ils étaient obligés de manger à Jérusalem en état de pureté. Bon, état de pureté, c'est pas très compliqué. À Jérusalem, ils étaient déjà. Ils avaient grâce à ça leur viande qui était payée toute l'année. Ils allaient acheter les animaux, toute l'année était payée. Alors, donc, Maaser Sheni Vehekdesh Shenivdu. Donc pareil, Maaser Sheni, ainsi que le Hekdesh. C'est quoi le Hekdesh ? Hekdesh a un cas, par exemple, quelqu'un qui dit, je donne, quelqu'un qui dit par exemple, il dit, je donne ses chaises à la synagogue. Maintenant, il s'avère que la synagogue est très loin, il n'a pas la possibilité de les déplacer. Normalement, l'objet qu'on a donné, c'est l'objet qu'on a promis, c'est l'objet qu'on a donné, en nature. Maintenant, le problème, il ne peut pas le faire. Donc, il y a une permission de racheter l'objet. Alors, on ne peut pas le racheter tout seul, on doit passer par un bed-in, parce que sinon, si on le rachète tout seul, on peut faire des erreurs. Donc, on doit passer par un bed-in qui sera, donc, à l'époque, enfin, qui était assermenté pour ça. Et le bed-in va dire, voilà, ça vaut tant, il le rachète, et après cet argent-là, le statut de Hekdesh va passer sur l'argent. Alors, dans tous ces trois cas-là, donc c'est des cas dans lesquels on n'a pas fait les choses comme on devait les faire. D'accord ? le cas du malade. Donc dans tous ces cas-là, on devait prélever la terouma, enfin, on ne l'a pas encore fait, ou bien on a racheté compte de l'argent. C'est des choses qui ne sont pas au top, qu'est-ce qu'on nous dit ? Mes amnis, maléem, on fait zimoun dessus. Ça veut dire que s'il a mangé cette nourriture-là, qui n'était pas cachère à 100%, il y a des problèmes dessus, des problèmes de cacheroute, on peut faire zimoun, on considère que Akadosh Baruch Hu est quand même content qu'on a mangé, il faut quand même remercier Akadosh Baruch Hu du fait qu'on a mangé. Aval me, achal tevel. À l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire manger au McDonald's. Aval me, achal tevel, s'il a mangé du tevel. C'est quoi du tevel ? Du tevel, c'est une récolte sur laquelle on n'a pas du tout prélevé la terouma. C'est ça leur avérote à l'époque. D'accord ? C'était, il a mangé une récolte sur laquelle on n'a pas du tout prélevé. Il n'y a rien qui était prélevé. Donc, achal tevel, ou maaser rishon chez l'onitla trumato. Ou bien, donc s'il a mangé du tevel, donc on va expliquer ce que c'est. Ou bien, ou maaser rishon chez l'onitla trumato. Ve ou maaser sheni veekdesh chez l'onivdu. Ve hachama sheachal pachol mikazaït. Ve anochi. En mesamni malé. Donc c'est quoi les cas qu'on vient de nous dire ici ? Là, c'est les quatre cas qu'on vient de citer. C'est des cas dans lesquels on n'avait pas le droit de manger. Par exemple, d'accord ? Si vous avez un non-juif, d'accord ? Il y a plusieurs explications sur l'histoire du non-juif ici, mais je vais expliquer l'explication de Rashi, qui dit qu'un non-juif qui a mangé de la terouma, qui était normalement destiné au Lévi. Donc normalement, le non-juif, il peut pas, il n'avait pas le droit de la manger. Premier cas. Deuxième cas, d'accord ? Même si, comme explique le commentaire, même si le non-juif a mangé son sandwich, et que je veux l'associer à moi, à mon zimoun. Est-ce que je peux le faire ? Le non-juif, il a le droit de remercier Kadosh Baruch Hu aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi il peut pas, hein ? Pourquoi il peut pas, le non-juif ? Si on était plusieurs à manger, un non-juif qui a mangé, pourquoi il ne pourrait pas s'associer ? Il va remercier Dieu ? Il n'a pas le droit de remercier Dieu ? La réponse, c'est comme il n'en a pas l'obligation, d'accord ? Donc il ne peut pas s'associer avec nous. S'il en avait l'obligation, il aurait pu s'associer avec nous. Donc il n'est pas chayav. Puisqu'il n'est pas chayav, il ne peut pas s'associer au zimoun. De même, une personne qui a mangé moins qu'un kazaït, moins que 30 grammes. Alors, à l'époque, l'application courante, une personne qui a mangé moins que 30 grammes, c'était le shamash. Le shamash était le serveur. Le serveur qui va grignoter au passage, mais qui n'a pas le temps de manger 30 grammes. Mais il a grignoté. Est-ce qu'on peut l'associer au zimoun ? Oui. D'accord ? Non. Il faut qu'il ait mangé un minimum de 30 grammes.
Il n'est pas chayav.
D'accord ? Sinon, il n'est pas chayav. Autre cas qu'on a donné ici, bon pareil, donc c'est-à-dire c'est des cas où le maaser n'était pas prêt, etc. comme il fallait. Dans ce cas-là, puisqu'on n'avait pas le droit de manger, dans ce cas-là, on ne fait pas le zimoun. Ça c'est donc à propos du zimoun. Un autre point qui n'est pas écrit ici explicitement dans la Mishnah, mais qui est ramené au Shulchan Aruch, c'est qu'à propos du zimoun, on dit que si une personne a mangé du motzi et que d'autres personnes ont mangé du mezonot, donc s'il y a deux personnes qui ont mangé motzi et une personne qui a mangé du mezonot, ils peuvent s'associer. Mais le contraire, non. Si vous avez deux personnes qui ont mangé du mezonot et une personne qui a mangé du moti, ils ne peuvent pas s'associer. Pourquoi ne peuvent pas s'associer ? Parce que le zimoun, on le fait en général seulement quand il y a un repas. Donc il faut qu'il y ait la majorité de ceux qui sont présents qui ont assisté au repas. Donc si j'ai 2 plus 1, ça va. Mais 1 plus 2, c'est pas bon. Ça, c'est pour le zimoun.
Celui qui a fait mezonot, il fait tout la birkat ?
Non, celui qui a fait... Il fait pas la birkat, mais il peut répondre au zimoun.
Il peut répondre au zimoun.
Ouais, il peut répondre au zimoun. Ah, ça, dans ce cas-là, c'est très facile. On en a parlé avant, ça. Ouais, ouais. Dans ce cas-là, il rentre dans la catégorie moti. Alors, Mishnah numéro bête. Quand Mishnah bête, la Mishnah va nous dire Nashim ba'avadim uktanim. Maintenant, qui peut participer au zimoun ? Donc, on nous dit que Nashim ba'avadim uktanim, les femmes, les esclaves et les enfants. Après, on les a mis dans le même groupe, vous allez comprendre tout de suite. C'est pas par un manque de respect. En mesamnim aleem. On ne peut pas faire zimoun avec eux, avec elles. Pourquoi ? D'accord ? Et le Mefarchi m'explique parce qu'à cette époque-là, elles n'ont pas l'obligation de faire le birkat Amazon. Alors, bien que, les femmes ont l'obligation de faire un birkat Amazon minimal. Ça veut dire de remercier Akadosh Baruch Hu sur le fait qu'elles ont mangé. C'est écrit dans Shulchan Aruch comme ça. Que les femmes, même si elles n'ont pas l'obligation de lire tout le birkat Amazon, mais elles ont l'obligation de remercier Akadosh Baruch Hu, même en français, même en un mot, de dire merci Dieu, voilà. Mais elles ont l'obligation de dire ça, sinon c'est un problème, parce que le Birkat Amazon, c'est Minatora. Mais étant donné qu'elles ne sont pas assujetties au Birkat Amazon comme les hommes, elles n'ont pas l'obligation de dire tout le Birkat Amazon, donc on ne peut pas les associer au Birkat Amazon. C'est la même chose pour les Ktanim, pour les enfants, qui ne sont pas assujetties au Birkat Amazon, ils n'ont pas l'obligation de faire le Birkat Amazon, bien que c'est écrit dans la Gemara qu'on a l'obligation de les éduquer dès petits à dire merci à Kadosh Baruch Hu aussi. On apprend aux enfants, à l'époque de la Gemara, on disait « Berir Hamana » et les Ramana et les Kana, Mara de Alma, Mara de Aipita. Ça, on a ramé un. On remercie Akadosh Baruch Hu qui est le maître de ce pain. Très bien. Donc, en français aujourd'hui, on peut dire aussi, on peut remercier Akadosh Baruch Hu. Donc, puisqu'il n'est pas assujetti au même titre que nous du Birkat Amazon, il ne peut pas s'associer avec nous. Et c'est valable de la même manière pour les esclaves. un esclave. De quel esclave? Alors justement, attention, de quel esclave on parle ici? On parle pas d'un esclave israélite. Parce que dans ce cas-là, c'est l'esclave israélite, il est assujetti à toutes les mitzvot. On parle d'un esclave cananéen, que quand il devient esclave, comme on l'a expliqué plusieurs fois, il est assujetti à toutes les mitzvot comme les femmes. Dans ce cas-là, donc il rentre dans la même catégorie. Nashim, Vavadim, Ugdanim. En mezamnim aleem. Alors écoutez bien le terme qu'on dit ici. En mezamnim aleem, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire zimoun avec eux. Maintenant la question que je vais vous poser, est-ce qu'entre eux ils peuvent faire zimoun?
Oui.
Ah, ça la question. Regardez bien le texte de la Mishnah. C'est pas clair, c'est ambigu.
Mais non,
d'accord.
Je vois mal une femme faire zimoun avec les deux autres femmes.
Je vois pas ce que tu vois, je demande ce que la Mishnah elle voit.
Non mais je sais pas, j'ai jamais vu une femme inviter deux femmes à faire zimoun.
Alors sachez que c'est une marloquette. Si un jour vous voyez, bon aujourd'hui personne ne le fait dans la pratique, j'ai jamais vu des gens le faire, mais sachez qu'à la base c'est une marloquette. Il y a des gens qui pensent que les femmes, donc toutes ces trois catégories que je viens de dire, l'homme n'a pas le droit de les associer aux zimoun, mais entre elles, elles ont le droit. Vous savez où on retrouve ça? On retrouve ça pour la Megillah. La Megillah. D'accord? On dit que si on a un minyan, bon ça c'est une marloquette en vérité, mais non, pour lire la Megillah, pour faire les brachot à la fin de la Megillah, il faut être minyan. D'accord? Alors la question se pose, étant donné que les femmes sont également assujetties à la Megillah, qu'est-ce qui se passe si on a un minyan? D'accord? On a un minyan avec par exemple 5 hommes, 5 femmes. Voilà, il n'y a pas minyan. Voilà, on a fait une lecture. Voilà. Est-ce qu'elles sont mitzvah? Est-ce qu'on peut les associer? Bon, dans les faits, on évite. Il y en a qui permettent, mais dans les faits, on évite. Mais une chose est sûre, selon tous les avis, c'est que si on a 10 femmes qui se rassemblent, d'accord, un minyan de 10 femmes qui se rassemblent, et que donc elles vont faire leur propre lecture de Megillah, elles ont droit, puisqu'elles sont assujetties, eh bien, elles sont considérées comme un minyan, elles font la bracha avant, après, comme si c'était un minyan à 100%. C'est pour ça que la question se posait pour le zimoun. Étant donné que les femmes...
Elles sont pas assujetties
comme les hommes.
Comme les hommes.
Mais elles sont assujetties à une certaine forme de remerciement.
D'accord, mais pas comme les hommes.
Donc entre elles, est-ce qu'elles pourraient ou pas?
Alors que la Megillah, elles sont assujetties de la même façon.
Bon, alors dans les faits, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. On va pas chercher les problèmes. Mais sachez que si un jour vous voyez un mouvement féministe qui va vous lancer le zimoun pour femmes, sachez que ça existe.
Oui, deux hommes et un enfant, on pouvait faire aussi.
Non.
Un enfant?
Un enfant,
ouais.
Ben voilà. Elle mes animaux, elle aime. Alors.
Un enfant, c'est avant la bar mitzvah.
Un enfant, c'est... Ici, il dit clairement, un katan, c'est pas chot, mais je serai à moins que 13 ans. On ne peut pas l'associer aux zimoun. Alors, ad kama mezamnim. Donc, bon, c'est en vérité, on l'a dit dans la Mishnah précédente, mais ad kama mezamnim, ça veut dire jusqu'à combien, à partir de combien on considère qu'on a l'obligation de faire le zimoun. D'accord? Ad kazaït, c'est celui qui a mangé un minimum de kazaït. Bon, avant, on avait dit ça à propos du shamash. Bon, on l'a déjà dit. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit ad kabetza. Donc, kazaït, c'est approximativement 30 grammes. Et kabetza, c'est, selon les avis, ça peut être 54, 56, 49 grammes. D'accord? Bon, il y a plusieurs avis. Parce que le problème, c'est qu'il faut appliquer des notions de Gemara, il faut les appliquer aux grammes. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, il y a plusieurs avis. On va dire 56 grammes pour être tranquille. Bon, normalement, dans un repas, on dépasse ça très très largement. D'accord? On dépasse ça très largement en pain. Alors, selon Rabbi Yehuda nous dit que pour avoir l'obligation de faire le zimoun, pas pour de l'obligation de se laver les mains, pour avoir l'obligation de faire le zimoun, il faut être rassasié à 100%. Donc rassasié à 100%, il considère que c'est à partir de kabetza. La halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. La halakha est que même si on a mangé 30 grammes, on est assujetti au birkat Amazon et donc au zimoun. De même, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que 2 plus 1, ça veut dire 2 qui ont mangé du pain et 1 qui a mangé du mesonote, peuvent s'associer l'un avec l'autre, c'est à condition que celui qui a mangé du mesonote a mangé 30 grammes de mesonote. Je sais pas, 30 grammes, c'est pas un pain au chocolat, je fais combien?
C'est 30 grammes, c'est autour de 100 grammes.
Pas grand-chose, 100 grammes.
Ouais, ouais.
Il n'y a pas 100 grammes.
Il y a 100 grammes, là.
Facile, là.
Il y a 100 grammes, là.
110 grammes.
Ouais, facile.
Combien, 110 grammes? Bon, ben voilà, bon, voilà.
Les petits lulas. Dans une baguette, il y a 250 grammes.
Les petits gâteaux, les petits lulas.
Les quoi?
Les petits lulas, les petits gâteaux là. Les petits écoliers là.
C'est 15 grammes.
Il faut faire attention, ouais.
J'ai pas mangé une demi-baguette quand j'ai mangé ça.
Non, je vois des fois des gens ici le matin, ils viennent, ils prennent un petit gâteau comme ça. Un petit gâteau, à la limite, c'est mieux de ne pas le manger. Parce qu'après, on rentre dans une question, est-ce qu'on doit faire, quelle voix on doit faire après? C'est mieux de ne pas manger. Si on veut manger qu'un gâteau, c'est mieux de ne pas manger. Alors, 2-3 gâteaux, bon, on va dire qu'on arrive à 30 grammes. Donc ad kazaït, donc ad kabetza, pardon. Donc ça c'est la marloquette, d'accord? Alors je vous explique juste la logique de la marloquette, pourquoi ils sont en marloquette, quelle est la logique de la marloquette. La Gemara explique que ils sont en marloquette sur Ve'achalta ve'savata. Le verset qui parle de Birkat Hamazon dit Ve'achalta ve'savata. Tu mangeras, d'accord, et tu te rassasiras. Alors la marloquette qui est ici entre donc, les deux avis, c'est est-ce que c'est deux choses à part entière. Ça veut dire, est-ce que tu me dis tu mangeras, et même si tu n'es pas rassasié, mais dès qu'on considère que c'est un repas, tu en as l'obligation, ou bien si c'est un repas qui ne m'a pas rassasié, je n'en ai pas l'obligation. Le premier avis, d'accord, c'est l'avis de Talnakama, donc l'avis par défaut de la Mishnah, et tu dis c'est écrit Ve'achalta. Ve'achalta, ça veut dire tu dois manger. Bon, tu as une bracha que Bezrat Hashem, tu seras rassasié aussi. Mais ça veut dire quoi, tu vas manger, c'est-à-dire dès qu'il y a un début de repas, 30 grammes, ça y est, tu as l'obligation de faire Birkat Hamazon. Alors Bida, il dit non, il dit Ve'achalta, tu vas manger. Qu'est-ce que j'appelle manger? C'est Ve'savata si tu es rassasié. Mais la halakha n'est pas comme lui. 30 grammes, on a déjà l'obligation, 30 grammes de pain, hein. 30 grammes, on a déjà l'obligation de faire le zimoun. Maintenant, la Mishnah, on passe à la Mishnah suivante. Qu'est-ce que nous amenons? Comment se passe le zimoun? D'accord, donc ça, bon, c'est à peu près comme ce qu'on fait aujourd'hui. Omer, Nevarech. Ah pardon, Bishlocha. Si on est trois, donc c'est le zimoun par défaut et le zimoun minimal. Donc Bishlocha, quand on est trois, Omer, celui qui invite, rappelez-vous, toujours le zimoun, c'est une invitation. C'est-à-dire qu'il y a un qui invite les autres à faire la bracha. Donc Omer, celui qui fait le zimoun, il dit, Nevarech. Il dit, venez, on va bénir à Kadosh Baruch. Donc il les invite à bénir à Kadosh Baruch. Il y en a qui disent après Nevarer Shachad Lumichelo, il y en a qui le disent en hébreu, il y en a qui disent en yiddish, enfin peu importe, ce qui compte c'est de le dire. Dans les Sidour Ashkenaz, ils disent en yiddish, ils disent Rabotai Mir Valent Benchen, parce qu'il faut qu'on comprenne, il faut que les gens comprennent autour, sinon c'est pas bon. Il faut réellement qu'ils comprennent ça comme une invitation. Sinon, autant le dire en français, oui, la vérité, autant le dire en français. Parce que c'est une invitation. Si tu dis un mot que le loge il a pas compris, tu l'as pas invité. On est passé à côté du zimoun. Le zimoun, c'est pas une bénédiction, c'est une invitation. Donc, invitation, il faut qu'ils comprennent. Il a été invité. Donc, il dit, celui qui invite les autres, donc il y en a trois, donc il y en a un qui va inviter les deux autres, il dit, Nevarer. Il dit, venez, on va bénir, d'accord, donc, on va bénir à Kadosh Baruch Hu, Shachal Nu Michelo, il y en a qui rajoutent aussi, Nevarer Shachal Nu Michelo, ça veut dire, on va bénir à Kadosh Baruch Hu, qu'on a mangé de ce qui lui appartient. Donc, lui, il dit, Nevarer. Bishlocha Vahu, s'ils sont maintenant, ils sont trois plus lui, donc ils sont au minimum quatre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il dit? Omer, il dit Baruchou. Bon, ça, c'est, on fait plus aujourd'hui. À l'époque, la Gemara, il dit pas, hein, quand tu mets Nevarer, ça veut dire venez, on va bénir. Ça veut dire qu'il s'inclut. Mais normalement, une invitation, quand tu invites quelqu'un, tu t'inclus pas dans l'invitation. Donc à l'époque de la Gemara, quand on était plus que trois, mais pas dix, quand on était plus que trois, il leur disait Baruchou, bénissez.
Bénissez, vous.
Vous bénissez. Moi aussi je vais bénir, mais je vous invite à bénir. C'est logique. D'accord? Donc Omer, il dit, Baruchou, bénissez. D'accord? Mais néanmoins, la Gemara nous dit que déjà à l'époque de la Gemara, on a enlevé cette possibilité parce qu'après, il y a des fois des gens qui utilisaient ça comme une moquerie. Ils disaient, oui, bénissez, du style, vous bénissez, mais moi je bénis pas. Ça s'appelle Otsi et Tasmo Minakla, ça veut dire se sortir, s'exclure de la généralité, s'exclure du klal. Donc déjà à l'époque de la Gemara, les Chachamim m'ont dit, bon, 3, 4 ou 5, on dit toujours Nevarer. Oui. Bah, à cette époque-là, apparemment, il y avait des gens qui se moquaient. Ils utilisaient ça comme une moquerie. Ils disaient, oui, vas-y, du style, bénissez-vous, allez bénir, moi je ne veux pas bénir. C'est, des fois, il y avait une note de sarcastique comme ça.
Il
répète, bien sûr. Bon.
On va l'écrire.
Attention, la Gemara dit qu'on peut dire Baruchou, hein, c'est permis. Mais elle dit que bon, comme il y a eu ce problème-là, les Chachamim de l'époque ont dit on va pas rentrer dans les problèmes, on va demander de dire Nevarer, comme ça, il n'y a pas de problème, tout le monde est inclus. Donc là pour l'instant, 3 et 4, c'est la même chose. Bah Sarah, lorsqu'on est 10, Omer, qu'est-ce qu'il dit? Nevarer l'Eloquenu. D'accord? Il dit Nevarer l'Eloquenu. Il dit on va bénir Eloquenu notre Dieu. Et pourquoi avant on ne bénissait pas notre Dieu? Alors c'est parce que c'est écrit dans Tehilim, Bemak Elot, Baruchu Elokim. C'est écrit que Bemak Elot, lorsqu'on est un Kahal, Baruchu Elokim, là on peut bénir Elokim, donc on peut dire Elokenu. Donc de là les Chachamim m'ont appris que quand on est un Kahal, là quand on va bénir un Kadosh Baruchu, on rajoutera le terme Elokenu. C'est la seule raison. Parce que ça ne veut pas dire que quand on est moins que 10, on ne bénit pas Dieu. Bien sûr qu'on bénit un Kadosh Baruchu. Pourquoi quand on est moins que 10, on dit Nevarer tout court, et quand on est plus que 10, on dit Nevarer l'Elokenu, on va bénir Dieu. Bah, toujours on bénit Dieu. C'est parce que les Chachamim se sont basés sur ce verset de Tehilim qui dit Bemakhelot Baruchu Elokim. Il y a un autre verset dans Tehilim qui dit aussi Baruchu Amim Elokenu. Il dit que les peuples vont bénir notre Dieu. Donc on considère qu'un Kahal et un peuple, c'est à partir de 10 personnes. C'est pour ça, c'est de là qu'on s'est basé pour modifier le Zimoun à partir de 10. Donc Ba'asara Omer, Nevarer, Lelokedu. Ba'asara Vahu, bon pareil, donc le même principe, s'il est 10 plus 1, ils disent, Omer, il dit Baru. Il dit bénissez notre Dieu. Il ne dit pas bénissons, il dit bénissez. Mais ça aussi, encore une fois, l'Agmara nous dit que ça a été annulé, ça a été aboli. Echad Asara ve Echad Eseribo. Maintenant, peu importe s'ils sont 10, d'accord, ou ils sont 10 000, ou 100 000, pardon. Ribo, c'est 10 000, donc Eseribo, ça veut dire... Stade de France. Ça veut dire, peu importe qu'ils soient 10 ou 100 000, d'accord, il y aura toujours la même bracha. Alors ça, l'Agmara nous dit que c'est la vie de Rabbi Akiva. La vie de Rabbi Akiva qui pense que, une fois qu'on a dépassé 10, après c'est fini. Il n'y a plus un autre stade. Maintenant, il y a un deuxième avis qui est en Machloket, qui dit, « Bemea Omer, Nevarech Lachem Elokenu. » D'accord, ça c'est la vie de Rabbi Yossi Aglili. La Mishnah ne le dit pas explicitement, mais c'est l'Agmara qui explique. Il dit que, quand on est 100, d'accord, il dit, « Nevarech Lachem Elokenu. » Il dit, « On va bénir Hachem, notre Dieu. » Comment on dit aujourd'hui? Comment on dit aujourd'hui dans les Zimouns, quand on est 10? Nevarer, comment on dit le Zimoun? Mais quand on est 10, on dit Baruch. Très bien, Elokenu. On ne dit pas Hachem. Alors à l'époque, quand on était, selon la vie de Rabbi Sagili, quand on était plus que 100, on rajoutait le terme Hachem. Pourquoi? On expliquera après. Beme Avahu, Omer Baruch. Bon pareil, si c'est 100 plus lui, il disait bénissez, au lieu de dire bénissons. Be'elef Omer, Nevarer, Hachem, Elokenu, Eloke Israël. Quand ils étaient 1000, ils disaient bénissons Hachem notre Dieu, le Dieu d'Israël. Donc là on a rajouté Hachem, Elokenu, le Dieu d'Israël. Be'elef Vahou, et si c'est 1000 plus lui, donc au moins 1001 et plus, Omer il dit Baruchou, il dit donc au lieu de dire bénissons, il dit bénissez. C'est le même principe. Beribo, lorsqu'ils étaient 10 000, Omer il disait Nevarer, Hachem Elokenu, Eloke Israël. On va bénir Hachem, notre Dieu, le Dieu d'Israël, Eloke at Sevakot, le Dieu des armées, parce que là on est 10 000, on s'apparente à une armée, Yoshev à Kérouvim, Yoshev à Kérouvim, c'est-à-dire celui qui est assis sur les chérubins, donc ça c'est pour se rappeler du Aaron, du Kodesh à Kodeshim, du Saint des Saints, à l'Amazon chez Achalou, pour la nourriture qu'on a mangée. Pareil, le même principe, Beribo Vahou, Omer Barichou. S'ils sont 10 000 plus 1, dans ce cas-là, il dira pas bénissons, mais il dira bénissez. Alors, dans les faits, ça, c'était aboli. On va voir tout de suite pourquoi. Alors, la Mishnah nous dit, « Keinyan sheu mevarer, kar oni macharav. » De manière générale, ceux qui vont répondre dans le même langage que celui qui les a invités. C'est-à-dire, on ne peut pas s'imaginer que celui qui invite, il va dire, « Nevarer lelokenu shachanu michelo » et les autres, ils vont répondre, « Baruch shachanu michelo. » S'il a dit, « Nevarer lelokenu », les autres doivent aussi répondre Baruch Elokenu. Ils doivent répondre dans le même langage. Et à l'époque de Rabbi Yossi Aglili, selon l'avis de Rabbi Yossi Aglili, si on rajoutait Hachem ou Elokim ou Elokat Sevakot, ceux qui répondaient devaient répondre avec la même formule qui les a invités. D'accord ? Bon, ça c'est pour faire joli. Donc, Kachoni Macharav, Baruch Hachem, donc s'ils étaient 10 000 et plus, ils disent Baruch Hachem Elokenu Elokat Eloke Israël, béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, Eloke Israël, le Dieu d'Israël, Eloke Atsevakod, le Dieu des armées, Yoshev Akerouvim, celui qui est sur les chérubins, à l'Amazon, chez Achalnou, pour la nourriture qu'on a mangée. Donc ça c'est la réponse qu'il va recevoir donc du Kahal. Alors, Rabbi Yossi Aglili Omer, le fils Ravakal à Nevachim. Alors Rabbi Yossi Aglili va nous expliquer. D'accord ? Il va nous expliquer c'est quoi cette histoire. Comment ça se fait que. Ça c'est la vie de Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili, il nous dit qu'apparemment, donc on a vu une différence entre 3, 10, enfin je vais zapper les 11, 10 plus, d'accord, donc 3, 10, après qu'est-ce qu'on a eu? On a eu 100, on a eu 1000 et 10 000, d'accord? Alors la question qu'on se pose, c'est pourquoi faire cette différence? Pourquoi faire cette différence entre le nombre du Kahal qui est présent? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yossi Aglili? Rabbi Yossi Aglili, il dit, les firova Kahal et Nevachim, il dit, d'après moi, le Zimoun devrait être modifié selon la quantité du Kahal présent. Pourquoi? Comme ce qu'on vient de dire. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Bemakhelot, Baruchu Elokim, Hachem, Mimekor, Israël. Qu'est-ce qu'il dit le verset? D'accord? Le verset, il dit que lorsqu'on a un Kahal, Baruchu Elokim, bénissez Elokim, ensuite ici Hachem, Et ensuite il dit Mimekor Israël, ça veut dire bénissez Hachem Eloki, Mimekor Israël, ça veut dire de la source des bénédictions d'Israël. Donc de là, Rabbi Yossi dit, tu vois bien que lorsqu'on est un cal, lorsqu'on est une communauté, tu vois bien que le Tehilim dit que lorsque tu es une communauté, on a rajouté des termes pour remercier Kadosh Baruch Hu. Donc de là, Rabbi Yossi Aglili a compris que plus on est nombreux dans le cal, et plus il faut remercier, et plus il faut rajouter des termes pour remercier Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il a compris. Mais la Halakha n'est pas comme lui. La Halakha est comme Rabbi Akiva qui dit tout de suite que Rabbi Akiva, il dit, ma matzinu vatakli sa dimat. J'ai une question à te poser, Rabbi Yossi Aglili. Il dit, à la synagogue, echad merubin vechad muatin, à la synagogue, qu'on soit 10 ou qu'on soit 100 000, d'accord, qu'on soit nombreux ou qu'on soit peu, Omer, on dit toujours, Baruch et Hachem Mavorach. Toujours ils disent Baruch et Hachem. Et le Kal, qu'est-ce qu'il répond? D'accord? Le Kal répond, Baruch et Hachem Mavorach, c'est tout. Donc il pose la question, il dit, d'où t'as sorti cette différence-là de dire que dans le Birkat Amazon, on va faire la différence, que quand on est, si on est entre 10, 100, 1000 et 10 000, à la synagogue, il n'y a pas cette différence pour le Baruch et Hachem Mavorach, qu'on dit juste avant le schéma. Ah, pourquoi tu fais la différence dans les imouns? C'est la vie de Rabbi Akiva. Là, selon la vie de Rabbi Yossi Aglili, il dit, bon, moi j'ai inversé le Tehilim qui me laisse penser que plus on est nombreux, plus il faut rajouter des termes pour remercier Kadosh Baruch Hu. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva, il dit non. Rabbi Akiva, il dit, c'est comme la synagogue, ça veut dire qu'il y a le cap de 3, le cap de 10. Une fois qu'on a dépassé le cap de 10, après, il n'y a plus rien. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael, il dit, Baruch et Hashem Mavorach. Rabbi Ishmael confirme la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael confirme de Rabbi Akiva qui dit que de la même manière que dans le Baruch on dit Baruch et Hashem Mavorach, c'est une seule phrase, une fois qu'on est 10. Après, il n'y a plus de différence si on est 10 ou 100 000. C'est le même inyan pour tout le monde. Donc de la même manière, dans le Birkat Amazon, donc là on a deux avis contre un. On a Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva contre Rabbi Yossi Aglili. C'est pour ça que la Halakha a été tranchée aujourd'hui comme ce deuxième avis, qui dit que une fois qu'on a dépassé le cap de 10, on restera toujours à Baruch Elokeinu Sha'achalnu Mishelo.
C'est pour ça qu'on n'a pas dans les Sidurim 100 000.
Voilà, il n'y a pas 100 000, il y a 10 000, il n'y a rien, tout ça. Voilà.